Bon matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
C'est parti pour un nouveau numéro de Sport Matin Dimanche. Bonjour Jean, rebonjour du moins.
Bonjour Patrice.
Nous parlerons bien entendu de football dans cette émission avec un retour sur le match des Chamois hier soir, battu par le Havre sur le score de 1-0. Ce week-end démarqué par le troisième tour de la Coupe de France. Premier résultat et réaction bien entendu avec un zoom ce matin sur le choc entre le FCB et Poitiers. C'est hier soir. En handball, les Mancoutantais ont bien entamé leur championnat de National 1 à domicile hier soir. Au programme également le premier trail urbain de Mauléon hier et un grand format autour de Sébastien Bichon, champion paralympique, invité du festival Belle la Différence dimanche prochain à Bressuire. Quant à la météo, le temps sera quasi estival ce dimanche avec un mercure proche de 30 degrés cet après-midi.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
On ouvre Jean ce SMD du 11 septembre avec la Ligue 1.
La Ligue 1 qui avait débuté vendredi soir par la victoire de Lens à domicile face à 3-1-0. Hier soir, petite victoire du Paris Saint-Germain face à Brest, également sur le score de 1-0. Tandis que Marseille s'est imposé face à Lille 2-1. On continuera aujourd'hui à 13h avec Strasbourg qui accueille Clermont. À 15h, c'est l'AC Ajaccio qui accueillera ses voisines de Méditerranée de Nice. Le SCO d'Angers à domicile accueillera Montpellier. Match breton ou de l'Ouest avec Lorient qui accueille Nantes. Nantes après sa belle prestation jeudi dernier en Coupe d'Europe. Et puis Toulouse accueillera Reims. Le championnat continuera à 17h avec Rennes qui accueillera Auxerre. Et puis se terminera à 20h45 avec le match Monaco-Lyon.
En Ligue 2, on ne peut pas dire que ce fut une belle soirée hier pour son premier match sur le banc des Chamois. Le nouvel entraîneur Rui Almeida avait opéré des changements pour cette réception du Havre pour le compte de la 8e journée, mais on a assisté à une rencontre plutôt terne. Les visiteurs, après avoir raté un premier pénalty à la 36e minute, feront vibrer malheureusement les filets niortais sur un deuxième pénalty à la 54e. Le tableau d'affichage restera comme tel avec une victoire havraise donc sur le plus petit des scores, 1-0. Malgré tout, le technicien Niorté en tire des points positifs, ces joueurs n'ayant pas été récompensés de leur engagement. Rui Almeida.
Je trouve que le match a été équilibré. Quelques moments, le Havre est au-dessous de nous, sous le passage ballon. Un match avec deux pénaltys contre deux poteaux de nous. Les résultats plus clairs, c'était un minime match nul. C'est clair, nous avons une jeune équipe, une très jeune équipe. Qu'est-ce que nous avons demandé, les joueurs nous ont fait? Nous avons pris le risque. Les joueurs, ils ont le courage pour faire ça aussi. Après, c'est, je disais, efficace. Nous allons continuer à travailler sur les dynamiques qu'on veut pour l'équipe. Ça, c'est le plus important.
Avec cette victoire sur la pelouse niortaise hier soir, le Havre s'en sort plutôt bien avec ses trois points de glané. L'entraîneur havrais le conçoit. Lucas Esner.
Je dois être honnête, si on pensait qu'ici ça serait facile, nous on savait que ça le serait pas et ça s'est confirmé parce que en face, je pense que ça a été un des meilleurs systèmes défensifs qui a été mis en place jusqu'à maintenant face à nous et on a eu beaucoup de mal à trouver des solutions dans le jeu. Combiné, c'est sûr, avec quelques difficultés techniques et de concentration, on s'est un peu frustré rapidement. Mais voilà, il faut aussi dire que l'adversaire a fait un super boulot de préparation. Le 5-4-1 défensif qui s'est mis face à nous a enlevé beaucoup de possibilités. Donc on rentre dans un match un peu différent avec beaucoup de pertes de balles, des transitions un petit peu dans tous les sens. On a une certaine maîtrise, mais on n'est pas vraiment dangereux à part sur les deux pénaltys. On n'est pas trop mal devant les buts, on fait les arrêts au bon moment. Mais bon, voilà, c'est globalement maîtrisé, mais ça se joue vraiment pas grand chose. Donc on est heureux de sortir de ce déplacement ô combien périlleux avec les trois points. Encore une fois, avec beaucoup d'abnégation du collectif, moins de qualité.
Lucas Esler, le coach du Havre, toujours est-il qu'avec cette cinquième défaite en cinq matchs, on ne peut pas dire que les Niortais soient en bonne position au classement. Ils sont aujourd'hui 18e de cette Ligue 2. Il faudra impérativement marquer des points dès samedi prochain avec un déplacement à Amiens. Bonjour Jonathan.
Bonjour équipe de Queen Radio.
Merci d'être avec nous, supporter des Chamois Niortais. Pourquoi Niort d'ailleurs, Jonathan?
Pourquoi Lyon? Parce que j'habite à 50 km, 54 plus précisément, de Lyon. Je cherchais un club professionnel et les Chamois Niortais font maintenant partie de ma nouvelle famille.
Depuis quand vous êtes supporter du club?
Excusez-moi, j'ai toujours suivi les Chamois Niortais. Mais plus précisément, depuis 3 ans, j'ai eu un coup de foudre pour ce club. C'est plutôt un club familial.
Coup de foudre, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous avez décidé de supporter les Chamois?
J'ai cherché un club en Ligue 2 avec moins de 10 000 spectateurs, ambiance champêtre. Et j'ai réussi à trouver ça, un club famille comme ça, on disait des frères. Quoi. Donc, je suis toujours derrière eux, je vais les voir tous les matchs. Et je fais des déplacements si je peux. Voilà.
Vous étiez, j'imagine, dans les tribunes hier soir. Quelle vision, quelle analyse vous faites de ce Niort-Le-Havre?
J'ai trouvé une première mi-temps un petit peu poussive de nos Niortais. On est mal rentré dans cette première mi-temps, à vrai dire. Heureusement, on a un tir au but qui est à côté, ça nous a un peu sauvé la mise. Le deuxième mi-temps, malgré le deuxième pénalty encaissé, un petit peu meilleur. Il y avait un petit peu de jus au niveau du milieu de terrain. On a essayé d'aller sur les latéraux aussi, c'était pas mal, il y avait de la vitesse. Je trouvais que nos Chamois, ils sont jeunes, hein, vous savez, les Chamois Niortais, c'est 19, 20, 21 ans, ils sont jeunes, il faut leur laisser du temps. Ils travaillent, on a un nouvel entraîneur, c'est pas mal. Ça va venir.
Il faut également laisser du temps à Ruel Meda, parce qu'en une semaine, préparer un groupe pour une rencontre, c'est pas évident.
Exactement, il faut du temps, c'est ce que je disais hier à des supporters, à des intendants du club. Il faut du temps, c'est du travail, c'est de la spontanéité. Aujourd'hui, Lyon n'est pas mort, hein, parce que je le vois sur les réseaux sociaux, ouais, on va perdre encore. Non, Lyon, il faut être avec eux, les garçons sont super sympas, et puis il y a une très bonne ambiance entre eux. Faut vivre ensemble, quoi. Il faut l'aimer, ce club, les Chamois Niortais. Il faut pousser avec eux, et puis il faut les encourager. Ils ont besoin de ça, et il faut réussir à faire ce qu'on va faire.
D'autant plus que Niort est, je crois, l'un des seuls clubs à avoir autant de matchs en Ligue 2 de toute la France.
Oui, exactement. Niort n'est pas un nom inconnu de la Ligue 2. Niort est un club très connu en Ligue 2, qui a déjà formé, je le rappelle, plusieurs noms du football français. Je pense à Jallet, je pense à Regretter, Emile Moussala. Voilà tout ça. Et puis, il y a une très belle équipe. Il faut être avec eux. Les Niortais ont besoin de nous, je le rappelle. Il faut les encourager. Et on était 4000, je crois. Je crois qu'il faudrait encore faire encore plus pour le prochain match, parce qu'il y a dans 3 semaines, c'est l'ogre Guingampé qui viendra avec notre ami Dylan.
Très bien, merci beaucoup Jonathan de nous avoir accordé quelques instants ce matin.
Je voudrais si possible faire un gros bisou à mes amis de Toulon qui me regardent, et au Toulon Elite Football Club Salle, à Régis, un gros bisou à Sabrina, et puis allez les Chamois Niortais, et à Vidal Boutoba aussi.
Exactement, merci de votre fidélité à Colline la Radio. Merci Jonathan, à très bientôt.
Merci,
au revoir. Après la Ligue 2, Jean, on passe au championnat de National.
National, donc National 1 qui s'est déroulé vendredi soir, et les Choletais à domicile ont fait match nul avec Orléans, 1-1. En National 2, dans la poule D, hier soir, les Herbiers accueillaient le Stade Bordelais, nouveau promu dans ce championnat. Match nul là aussi, 1-1. C'est le troisième résultat nul du Vendier, les Herbiers Football, après leur première victoire initiale dans un championnat qui s'annonce très serré. Un résultat sans doute un peu frustrant pour Laurent David, l'entraîneur des Herbiers.
Beaucoup de regrets, même beaucoup de frustration, même si c'est ce que j'ai dit aux garçons, je pense que c'est notre première mi-temps la moins aboutie depuis le début de saison, mais il nous a quand même permis de mener 1-0. Et ensuite, effectivement, beaucoup de frustration parce qu'on a pléthore d'occasions pour doubler la mise, ou même voir aller plus loin encore. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une erreur défensive, un petit peu une faute de relance, et puis une frappe un petit peu contrée, un but un petit peu bizarre, un petit peu spécial, mais qui compte. Et même après ce but en question, on a les situations encore pour aller gagner ce match-là. Mais malheureusement, ça n'a pas voulu sourire ce soir. Donc il faut se satisfaire de ce point, parce qu'on n'a pas le choix. Mais effectivement, ça fait 3 matchs où on mène 1-0, et 3 fois où on se fait rattraper au score, et en faisant très très peu d'erreurs, mais en les payant souvent cash.
Alors vous êtes arrivé à l'intersaison comme l'entraîneur principal du VHF, avec un renouvellement d'effectifs important. Comment on aborde une saison comme celle de 2022-2023?
Il y avait plusieurs choses. Déjà, effectivement, il y avait tellement de départs, donc il fallait recruter beaucoup. Ça a été un long travail, 2 mois de travail. On n'a pas compté les heures, je crois qu'avec André Gabory, favorite. Ça fait, souvent, on commençait à 8h, on finissait à 22h, 23h. Ça a été très très long. Mais il nous a paru important de prendre le temps de bien recruter parce qu'on voulait des joueurs qui puissent s'entendre par rapport au projet de jeu, déjà. Et surtout aussi par rapport à la vie au sein du club. Je pense qu'on ne s'est pas trompé entre les joueurs qui sont restés et les joueurs qui sont arrivés. Donc il a fallu mettre tout ça en place. C'est vrai que les gens étaient un peu, je pense, inquiets pendant nos matchs de préparation. Moi, j'avais dit aux joueurs que je n'étais pas inquiet. On savait qu'il y aurait une préparation très lourde. Ils ont été surpris. Parce que je suis venu avec Martin Néolas, le préparateur de Brest, et c'était très lourd, on le savait. Donc on n'a pas paniqué. Et on savait qu'avec le temps, l'équipe serait prête physiquement. Elle l'est, elle le montre en ce moment. Et puis, malheureusement, il nous manque un petit peu cette flamme pour faire trembler un peu plus les filets. Mais déjà, on se crée des occasions. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et j'espère que très vite, ils seront récompensés de leurs efforts parce qu'ils le méritent.
Voilà les propos de l'entraîneur des Herbiers, Laurent David. Les Herbiers qui ont donc fait match nul, Jean, hier soir face au Stade Bordelais. Un but partout ce week-end, Jean. Eh bien, est marqué par le troisième tour de la Coupe de France.
Troisième tour de la Coupe de France, on a fait Patrice avec... des résultats donc hier soir, en particulier le FCB qui accueillait l'équipe de National 3 de Poitiers, le FCB qui s'est incliné de justesse 2-1. Un tirage difficile mais un résultat encourageant pour Stéphane Viau, le président du FC Bressuire.
Bah c'est vrai que le tirage il était très peu clément, on prend le ce qui se fait de plus fort au niveau de la Ligue, malgré tout il fallait voir à quel niveau on se situait. On n'est pas passé loin, c'est dommage, une certaine frustration, déception, parce que les gars ont livré une belle partie, on a ouvert le score logiquement, après des occasions de part et d'autre, on a l'opportunité dès le début de la deuxième de mettre le deuxième, et puis après manque de fraîcheur, peut-être manque de lucidité un petit peu, on prend cette égalisation qui nous fait mal dans le dernier quart d'heure, et il marque le deuxième avant la fin du temps réglementaire.
Résultat frustrant un peu pour la Coupe de France, parce que le FCB est habitué à avoir des bons résultats à la Coupe de France, mais très encourageant pour ce début de championnat Régional 1, avec sans doute l'objectif d'avoir des résultats qui permettent de rester en tête de ce championnat.
Oui, il faut en tirer du positif malgré tout, parce que l'état d'esprit et la manière étaient là, ça va nous permettre de tirer des enseignements de tout ça et puis de retrouver cette volonté, cette solidarité d'être le plus performant possible. Et dès le début du championnat, il faudra qu'on soit là pour être en haut du tableau.
Stéphane Viau, le président du FCB, le football club de Bressuire, qui s'est donc incliné hier lors de la réception de Poitiers sur le score de 2-1. Les autres résultats, Jean, de ce troisième tour de la Coupe de France.
Oui, à noter le très très bon résultat de Terve, désormais en département de l'Une, qui a accueillait l'équipe de R1 de Montmorillon et qui s'est imposé 2-1. Saint-Sauveur s'impose également face à Gatifoot 1-0. Alors là, les Toircais n'ont pas fait de détails vis-à-vis de leurs voisins de Loudun. C'est vrai qu'il y a une différence entre la D2 de Loudun et la R1 de Thouars qui s'impose 13-0. Partenay-Viennet se déplaçait à Nieul-l'Espoir et s'est qualifié pour le quatrième tour par une victoire de 3-2. Le Pays-Mélois fait match nul avec l'Île d'Oléron. Nous n'avons pas le résultat des pénaltys. Rouillé, la D2 s'impose au FC Autise, une D1, 2-1. Échiré-Saint-Gelais s'impose à Verdier, 2-1. Et Dompierre-sur-Mer a éliminé Selvérine 6-1. Et puis il y aura d'autres matchs cet après-midi, Patrice, pour ce troisième tour, sachant qu'au quatrième tour, tous les clubs bénéficient du maillot. C'est un trophée souvenir pour tous les qualifiés au quatrième tour.
Cet après-midi, à suivre donc pour la suite de ce troisième tour de la Coupe de France, Saint-Aubin-le-Cloud qui reçoit Cerisé, déplacement de Montcoutan à Laigne sur Fontaine, également de Noyaux-Biers qui ira affronter Vic sur Gartempe, Louzy recevra Ingrande, Saint-Sarbouillé Neuville, Aubin-Orté à domicile sera opposé au Talus, déplacement de Choré à Val-de-Boutonne, Mosée-sur-le-Mignon accueillera cet après-midi Fontaine-le-Comte, Saint-Ouen face à Château Larcher et enfin ce derby entre la Venise Verte et le pays Saint-Mexanté. On passe au championnat féminin, Jean.
En Régional 1, hier, donc les Bressuires se déplaçaient à Châtellerault. Défaite des filles du FCB, 4-0.
En Coupe des Deux-Sèvres maintenant, C'était le premier tour.
C'est le premier tour. Et hier soir, donc, la réserve du PMLOA s'est imposée à Pézé-le-Thor 3-0. Et cet après-midi, la réserve d'Aubin-Rortet se déplace à Assay. Limalonge ira à Chenet chez Sèvres. La réserve de Vouillé ira à Exireuil. Fonpermédigout accueillera Sainte-Néomeyer-Romand. Les joueurs de Montravers se déplaceront dans l'Argentonais à Genton. À Mayou ira à Neuvy-Bouin. Le pays Saint-Mexentais, la réserve, ira à Niort-Cébé. La réserve de Niort-Saint-Florent accueillera celle de Niort-Saint-Liguerre. Les FC Sauzéen accueillera le FC Marigny. La réserve de Saint-Serbouille accueillera celle des Pays Loin. La réserve de Saint-Sauveur, celle de Vrines. Et puis Saint-Éan accueillera Saint-Martin-du-Fouillou.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Après le football, le basket et la sixième victoire consécutive pour Cholet en pré-saison. Hier, les hommes de Laurent Villa ont en effet battu Strasbourg 95-84 et joueront la finale cet après-midi à Luxeuil en Haute-Saône contre Dijon en National 2 masculine. La défaite de Niort à Garonne SPTT 88-67 en National 3. Ouverture du championnat et la Séguinière a battu 13-85-60 avec 9 points d'ailleurs à signaler de l'ex-bressuré Jérémy Deschamps. On passe au handball et le championnat de National 1 féminine. Les Montcoutantaises ouvraient leur saison hier à domicile face à Côte Basque. Victoire des Bokens 22-18. Belle entame de saison pour les Montcoutantaises, ce que confirme l'entraîneur adjoint Bertrand Sabourin.
C'est même très bien. C'était un match en plus compliqué pour entamer la saison parce que Côte Basque a fait un beau championnat l'année dernière, donc on partait pas favori de la rencontre, donc forcément débuter par une victoire, ça nous fait extrêmement plaisir. Ouais. On a vraiment concerné et impliqué, donc ça a pas trahi tout ce qu'elles ont mis en œuvre pendant tout le mois d'août, donc c'était vraiment bien. Ouais. Oui, on va à Mérignac la semaine prochaine. Donc c'est un adversaire qui joue dans la même division que nous, entre guillemets, parce qu'il y aura les monstres un petit peu de la N1 avec Pessac, Nios, Saint-Julien. Et là, on a un autre championnat nous à jouer pour le maintien. Ce sont ces équipes-là. Et il faut aller faire un bon résultat là-bas. C'est important pour nous aussi.
Quel est l'objectif de cette saison?
Un maintien plus confortable que l'année dernière encore, parce qu'on s'est maintenu à 3 journées de la fin. Si on pouvait le faire encore plus tôt cette année, on serait ravis. C'est l'objectif fixé par le club et celui qu'on a poussé aux filles. Donc on va essayer de tenir cette feuille de route là.
Bertrand Sabourin, l'entraîneur adjoint des Montcoutantaises, qui ont donc bien entamé leur saison avec cette victoire à domicile hier soir face à Côte Basque, 22-18. On reste dans le handball, Jean.
Oui, en National 1 masculine dans la poule 2, cet après-midi, nos voisins de Pouzauges se déplaceront dans la banlieue nantaise à Rezé. Ensuite, en National 2 féminine dans la poule 2, hier soir, Celles-sur-Belle, la réserve de Celles-sur-Belle, s'est imposée à Carquefou 28-20. Très belle début de saison, très beau début de saison pour les Celloises, puisque l'équipe première s'était imposée dans le courant de la semaine face à Toulon. Et puis cet après-midi, l'équipe de Lezay-Cel accueillera celle de Sainte-Gemme-Angers en National 3 masculine dans la poule 2.
En rugby maintenant, top 14, la victoire du Stade Rochelet sur la pelouse de Lyon, 21-23. Et puis cet après-midi en National 2, Niort qui devait jouer en théorie cette ouverture de championnat en anglais, eh bien le match a été inversé puisque le terrain de l'équipe des Pyrénées-Atlantiques est impraticable et un arrêté municipal a été pris en ce sens. Et donc l'ouverture du championnat de National 2 pour les Niortais, ça sera à domicile à Espanassou cet après-midi face à Anglette. Un petit mot de triathlon, Jean.
Oui, le triathlon avec les féminines du TCG 79 qui, en terminant hier à la 7e place du Grand Prix de Saint-Jean-de-Mont, ont sauvé leur place en division 1 nationale pour l'an prochain après une saison un peu chaotique qui les classe tout de même à la 10e place d'un classement général remporté par l'équipe de Poissy. Et puis nous suivrons dans les prochaines semaines l'entraîneur du TCG 79, Boris Dessenois, qui lui s'affrontera à l'Ironman d'Hawaï pour lequel il s'était qualifié en août 2019, mais dont les éditions ont été annulées pour cause de Covid. Il vise un temps inférieur à 9h. Rappelons, l'Ironman, c'est 3 km de natation, c'est 180 km de vélo. Et puis, pour terminer, si on n'est pas trop fatigué, un marathon de 42 km 195. Donc,
bon
courage à Boris, qui était l'un des athlètes aussi du SBAC, puisqu'il participait régulièrement aux épreuves de cross-country. Nous le suivrons donc dans cette aventure de l'Ironman d'Hawaï.
De la course à pied avec la première édition de l'UTMG, comprenez l'Urbain Trail Mont-Gaillard. Le départ a été donné hier en tout début de soirée du château de Mauléon, une épreuve qui remplace les courses de loin. Au programme pour les 109 participants, un circuit de 9 km à parcourir au choix une ou deux fois à travers un circuit urbain, mais également nature. Sur le 9 km, le noyaubier David Rochereau du SBAC a passé la ligne d'arrivée en un temps de 33 minutes et 38 secondes.
Les sensations sont bonnes. Je suis en fin de prépa pour mon semi du week-end prochain, donc je me décide plus pour faire une bonne séance. Donc voilà, les sensations sont bonnes. On a un très joli parcours ici, donc c'était sympa avec du dénivelé. C'était plus sympa de venir faire une séance ici que de la faire tout seul à la maison, surtout.
Les deux derniers kilomètres particulièrement difficiles.
Ouais, ils sont. Il y a quand même des belles bosses, donc c'est sympa. Il y a le Mont Gaillard là qui est vraiment sympa. Et oui, la fin et voilà, il faut pas partir trop vite, il faut en garder pour la fin. Et c'est vrai que ceux qui faisaient 18, ils ont deux fois ça à faire, donc ouais, ça doit brûler dans les jambes à la fin.
Toi qui connais maintenant bien les trails, cet UTMG, tu le qualifierais comment?
La fin de parcours est plus trail, on va dire. Après le début, toute la première partie, c'est plus roulant, donc voilà, ça permet de se mettre dans le rythme. C'est vrai que si on voulait vraiment mettre ça dans un trail, il faudrait que la première partie soit aussi un peu plus de côte, des choses comme ça, quoi. Un peu moins roulante. Mais la fin de parcours est très sympa.
David Rochereau du SBAC qui a donc remporté le 9 km hier de cette première édition de l'UTMG. Sur le 18 km, c'est Quentin Debarre de Rorté qui s'est imposé en 1h15. Il est également au micro-colline de Vincent Nourry.
C'est toujours sympa d'avoir des courses comme ça, conviviales, des petites bosses comme moi j'apprécie, donc avec des relances où il faut courir, donc c'est vraiment appréciable. Ça charge un peu les cuisses sur la fin, mais c'est marrant. Après voilà, moi j'aime bien les bosses, donc c'est vrai que celui qui aime le plat, c'est peut-être plus compliqué.
Pour des échéances à venir, Quentin.
Donc là, dans 15 jours, je descends dans le Mercantour. Donc on part d'Oron, en dessous Gap, pour traverser le Mercantour jusqu'à Nice. Donc 165 km, 9000 mètres de dénivelé. J'espère faire une bonne place, après on verra.
Oh non. Petit clin d'œil également ce matin, Vincent Nourry qui a participé sur le 9 km à ce Urban Trail Mont-Gaillard. Vous ne bougez pas dans un instant, on parle de la haute du Père Noël.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Merci d'être sur Colline Radio, nous allons parler maintenant de la haute du Père Noël. Bertrand Gavillot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans ce Sport Matin Dimanche. Alors la haute du Père Noël, on va traduire, sont les Herbiers Original Trail qui se dérouleront cette année mi-décembre. Alors que contient cette haute, Bertrand Gavillot?
Alors la haute du Père Noël, vous l'avez très bien traduit, c'est bien les Herbiers Original Trail. C'est l'une des 18 courses de l'événement, les courses du Père Noël qui auront lieu cette année, les 17 et 18 décembre aux Herbiers.
Alors quand on dit les courses, elles sont multiples, hein?
Oui, elles sont vraiment multiples puisqu'on organise 18 courses l'espace du week-end. Et la haute du Père Noël sera le fil rouge du week-end.
Avec 5 trails plutôt costauds. Hein.
Alors, on va dire plutôt 4 trails costauds puisqu'on a ajouté cette année plutôt une course nature pour les gens qui voulaient faire une petite distance sur 10 km et relativement facile. Donc voilà, 4 trails, 2 marches nordiques et puis 11 courses de cross-country.
Alors si on s'attarde sur ce trail, je vois sur ma fiche un 133 km.
Oui, absolument, 133 km en courant. Ça peut faire peur à certains, mais oui, c'est une course de 133 km qui va parcourir le bocage, départ des Herbiers, et qui va aller jusque, on va dire, Saint-Marc-la-Réor, qui va aller vers Saint-Michel-Mont-Mercure. On va passer au pied de l'église de Saint-Michel-Mont-Mercure, pour revenir ensuite vers le Puy du Fou et puis les Herbiers et un petit tour vers la Gaubretière.
Alors quand on dit trail, on pense forcément dénivelé.
On pense aussi dénivelé. Alors il y a une petite précision sur notre site internet, mais Pour les locaux, le 133 km va faire environ entre 3000 et 3200 mètres de dénivelé positif. Donc c'est quand même une belle course assez difficile.
Alors, on parle de course, mais il y a également en parallèle des marches, des animations pour les enfants.
Alors voilà, exactement. Comme je vous disais, il y a 17 autres courses. Il y a donc deux épreuves de marche nordique, dont une chronométrée. Et puis on aura le dimanche après-midi 11 courses de cross-country. Dont pour les enfants, puisqu'on a deux courses handicap sport adapté, puis on démarre pour les plus jeunes dès l'âge de 6 ans sur des petites distances de 800 mètres.
Je crois que ça fait plus de 30 ans que cette épreuve existe.
Alors nous sommes à la 31e édition, 32 ans exactement, puisque l'année dernière c'était l'année blanche en 2020. Voilà, on avait démarré par du cross country en 1990 et puis l'épreuve s'est un petit peu étoffée pour devenir un cross régional dans les années 2005-2010, puis on y a ajouté de la marche nordique, de la course nature, puis dernièrement du trail, et enfin, là, depuis trois années, de l'ultra trail. Donc c'est un week-end complet dédié à la course en nature, la course à pied nature.
Oui, alors pour un tel week-end, c'est combien de bénévoles qui sont mobilisés par les organisateurs?
Alors jusqu'à présent, l'an dernier, nous étions environ 240 bénévoles. Cette année, on a étendu un petit peu le circuit. Je pense qu'il va falloir tourner plutôt à 280-300 bénévoles sur le week-end.
Et pour les épreuves de cross-country, c'est toujours le parc du Landreau qui accueille...
Non. Depuis deux années maintenant, on a déménagé toute l'organisation au parc équestre du Bocage, sur la route de Ménard-la-Barotière.
Les inscriptions sont ouvertes, j'imagine.
Les inscriptions sont ouvertes et sont même déjà bien démarrées puisqu'on a ouvert le 2 septembre il y a exactement une semaine et on est aujourd'hui à un peu plus de 130 inscrits, principalement sur les grandes courses. On va dire qu'on a plus de 30 concurrents déjà inscrits sur le 133 et puis on arrive à 25% de remplissage sur le 36 km et cette course est habituellement complète aux alentours du 15 novembre, dès le début novembre, 15 novembre.
Vous parliez du 133, il y a un instant je rebondis là-dessus. Est-ce que tous les participants arrivent au bout de l'épreuve?
Ah, c'est un petit peu le prix à payer, non. On arrivait à globalement 40% d'abandon ces deux premières années. Alors on a modifié un petit peu le circuit et notre souhait c'est d'arriver à 85-90% d'arrivants. Puisqu'on voudrait évidemment que tous les coureurs arrivent à terme du défi.
Bien entendu. Bertrand Gabillot, l'un des organisateurs de cette hôte du Père Noël, les Herbiers Original Trail. Merci beaucoup d'avoir été en direct sur Colline Radio dans ce sport matin dimanche. Merci à vous.
Eh ben, je vous remercie. Bonne journée à tous.
Passez une très bonne journée, un très bon dimanche.
Sport matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Lui, il sera à Bressuire dans une semaine, jour pour jour. Le Niortais Sébastien Bichon se rendra en effet dans la capitale bocaine au départ de son domicile à vélo via Secondigny, accompagné d'ailleurs d'autres cyclistes. Amputé tibial de la jambe droite à l'âge de 4 ans et demi, ce dernier a un très beau parcours en cyclisme handisport. Écoutez plutôt, 5 titres de champion de France, 2 fois vice-champion d'Europe, médaillé de bronze aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000. Cette même année, il a décidé de s'aligner au mythique Bolt Ride au milieu de 200 autres cyclistes. Objectif, couvrir 1200 km à vélo en 120 heures maxi. Ce défi a été filmé par la société Grenouille Productions de Poitiers qui en a fait un documentaire de 52 minutes. Documentaire qui sera projeté au fauteuil rouge dimanche prochain dans l'après-midi dans le cadre du festival Belle la Différence. Sébastien Bichon.
La bande touride, c'est 1200 km à parcourir en 5 jours maximum. C'est pas vraiment une course, c'est partir d'un point, arriver à l'autre, effectivement dans un temps limité. Et chacun choisit sa route avec différents points de contrôle. Il y en avait 3 ou 4 sur le parcours. Et je suis le seul amputé à m'être lancé dans cette aventure. Avoir l'idée un peu saugrenue de vouloir faire un truc comme ça. Alors, on est parti de la forêt de Rambouillet. On est passé par la Sarthe, la Nièvre, traverser tout le Massif Central pour terminer dans les Hautes-Pyrénées, au-dessus de Saint-Lary, au niveau de la forêt d'Aranouette, le lac d'Orédon. Voilà, ça fait 1200 km et avec beaucoup de dénivelé, on a eu à peu près 14 000 mètres de dénivelé, ce qui est conséquent. Et puis, on a fait ça début août 2020, c'était la période de canicule, donc on avait tous les jours 37-38 degrés en milieu d'après-midi, ce qui sollicite bien les organismes. En gros, on partait le matin à l'aube pour s'arrêter quand le soleil se couchait. Donc ça faisait une douzaine d'heures de route. Enfin, après, on se permettait quand même une pause, parce que les organismes, ils ont besoin de récupérer. Donc la pause du déjeuner de midi, j'en profitais souvent pour faire une sieste, pas trop longue, mais au moins pour récupérer, se régénérer et repartir dans de bonnes conditions. Le plus difficile, ça a été de tenir le cap de l'objectif. C'est-à-dire que la veille de l'arrivée, donc en gros, si je voulais absolument tenir le défi, parce que pour moi, faire ça en 120 heures et 30 minutes, c'est pas la même chose que 119h30. C'est-à-dire que d'un côté, on enlève effectivement le défi de faire ça en moins de 120 heures. Et donc la veille de l'arrivée, où il fallait que j'arrive avant mercredi 14h pour être sûr de passer sous le cap des 120 heures, eh bien, on s'est aperçu que dans notre cap de route, eh bien, on s'était un petit peu trompé et il y a eu un loupé d'une quarantaine de kilomètres, ce qui nous a mis un peu dedans. Et puis il y avait eu un autre imprévu, il a fait un passage un petit peu à vide. Ce qui fait que le mardi soir, je me suis dit, waouh, si je veux vraiment tenir les 120 heures, ça va être chaud. C'est pas gagné et ça peut passer, mais c'est pas sûr. Et moi, je voulais vraiment assurer et donc j'ai décidé de ne pas dormir la nuit de mardi au mercredi. Donc j'ai roulé toute la nuit, une première expérience aussi pour moi, c'était tout nouveau. J'avais jamais fait quelque chose de comme ça. Et puis, eh bien, ça s'est bien passé. Alors, à un moment donné, j'ai quand même dû m'arrêter. Hein. Le corps physique m'a rappelé à l'ordre et je sentais que j'allais tomber de mon vélo si je continuais. Donc, il fallait que je m'arrête, que je dorme. J'ai dormi trois quarts d'heure. Je suis reparti. J'ai à nouveau dû faire une nouvelle pause où j'ai dormi environ 35 minutes. Et puis là, je me suis réveillé naturellement et je savais que c'était bon. Et effectivement, j'ai pu continuer. J'avais rechargé les batteries. Le corps humain est assez extraordinaire. Hein. J'ai pu l'expérimenter et arriver au final à midi, donc en 118 heures. Donc défi relevé et très heureux. Ce que je vais retenir, c'est déjà le fait que le handicap, c'est pas une limite en soi. Et effectivement, c'est une contrainte. Il faut s'y réfléchir et cogiter sur les solutions qu'on peut trouver pour pouvoir s'exprimer et réaliser de belles choses. 1200 km à vélo, il y en a pour certains qui vont dire mais c'est quoi cette histoire, c'est du grand n'importe quoi. Si c'est pour aller souffrir, c'est pas la peine. Non, moi au-delà de ça, c'est le plaisir de faire du vélo. J'adore ça. Et puis savoir que je vais traverser toute la France, c'est génial parce qu'il y a des paysages magnifiques, enfin, voilà, c'est très varié et c'est un vrai plaisir. J'aime aussi être dans l'effort, hein, si je suis compétiteur, c'est pas par hasard. Donc il y a ce côté plaisir. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'en retiens, c'est ça, c'est cette façon de voir la vie différemment, se dire ok, il y a des solutions, on sait pas lesquelles exactement, mais on va les trouver. Et puis savoir aussi, enfin ce que j'ai vraiment bien compris, c'est je l'avais déjà expérimenté, mais pas de cette manière-là. C'est vraiment la force qu'on peut avoir quand on a quelque chose en tête, qu'on a envie de réussir. Eh ben quand on se donne les moyens, on y arrive et on a des ressources en nous qu'on n'imagine pas. Et moi-même, j'imaginais pas terminer et ne pas avoir de fatigue. Enfin, non, j'étais pas vraiment fatigué quand j'ai terminé tout ça. Le lendemain, on m'aurait dit tu continues, je continuais. Donc c'est assez extraordinaire. Je pensais être complètement lessivé à la fin et c'était pas le cas.
Chapeau bas, monsieur. Le de Sévrien, Sébastien Bichon, ce dernier sera donc présent à Bressuire dans une semaine, jour pour jour, dimanche prochain, au fauteuil rouge de Bressuire à 16h pour la projection du documentaire retraçant son aventure dans l'épreuve Born to Ride, et ce, dans le cadre du festival Belle la Différence.